Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Alors, Olivier Mazerolle, vous avez voulu nous souhaiter à tous la bonne année en nous faisant rencontrer un homme bourré d'optimisme. Pas d'un optimisme béat, mais ancré sur la réalité. C'est un Syrien d'origine, parti de rien, qui est devenu français et qui a remporté en juin dernier le prix mondial d'entrepreneur de l'année face à 63 concurrents étrangers.
Oui, il s'appelle Moed Altrad. Il dirige un groupe de matériel pour BTP présent dans une centaine de pays, plus de 1700 salariés, près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et il a gagné ce prix en faisant saliver, qui fait saliver tous les entrepreneurs de la planète, un prix attribué par des connaisseurs, le cabinet d'audit Ernst & Young, qui passe au scanner les entreprises du monde entier. Et quand Moed Altrad a entendu son nom être annoncé comme étant celui du lauréat, il a bondi sur la scène en brandissant deux drapeaux français en hommage au pays qu'il avait accueilli, la France qu'il aime et dont il est convaincu qu'elle a tout pour réussir, qu'elle a tout pour sortir de sa dépression permanente, pour peu qu'elle veuille croire un peu en elle-même et rester fidèle à son histoire et à sa culture.
Alors son groupe est basé près de Montpellier, une ville dont Moed Altrad est aussi le président du club de rugby d'ailleurs. Vous l'avez rencontré il y a quelques jours. Sa voix est douce, mais ses propos sont cash quand il raconte cette réussite incroyable à laquelle rien ne le prédisposait.
Oui, parce qu'il est né dans une tribu de bédouins dans le désert de Syrie. Il a fini par aller au collège à Raqqa. Vous savez, Raqqa, c'est la ville dont Daesh a fait sa capitale. Eh bien, à Raqqa, grâce à un professeur de littérature, dans cette ville, Moed Altrad a découvert Victor Hugo, qui lui a fait aimer la France au point qu'il a bossé dur pour obtenir une bourse lui permettant de finir ses études en France. Et c'est comme ça qu'il a réussi, alors que sa vie avait commencé de la pire des façons, comme il le raconte, sans fioritures, en parlant des conditions de sa naissance et de son père.
Dans le désert syrien, d'un père qui était chef de la tribu. Vous savez, les tribus ont des conditions de vie, des méthodes ancestrales qui existent encore. Eh bien, cet homme-là avait tout le droit. Donc, il a trouvé une pauvre jeune fille, gamine, hein, de 12-13 ans, qu'il a violée une première fois pour donner naissance à mon frère aîné, Mayouf, et qu'il a maltraité au point de le tuer. Ensuite, il a violée une seconde fois pour que je vienne au monde. Et j'ai eu de la chance que cet homme-là, donc mon père, ne veuille pas de moi. Donc il m'a laissé chez la grand-mère et c'est comme ça peut-être que je n'ai pas été tué. La grand-mère, elle considérait, elle avait un raisonnement tout à fait intéressant de dire un berger n'a pas besoin d'aller faire des études.
Malgré ces circonstances difficiles, vous avez tourné autour de l'école, vous avez été repéré. Et finalement, vous êtes entré à l'école à Raqqa, cette ville martyre aujourd'hui, détenue par l'État islamique. Et à Raqqa, à l'époque, il y avait des professeurs qui aimaient la littérature française et vous ont fait connaître Victor Hugo.
Vous savez, on a tous un petit coup de destin à un moment ou à un autre dans notre vie. Dans des périodes très courtes, on faisait la scolarité, vous savez, lorsque la tribu se sédentarise pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, on fait l'école coranique. À l'école, il y avait un professeur qui était égyptien, qui m'a remarqué. J'avais les pieds nus, j'avais un djellaba déchiré, il m'a donné les moyens d'entrer à l'école. Et puis, finalement, j'ai été par la suite à Raqqa pour faire mon baccalauréat dans cette région complètement désertique. Et Raqqa, c'est la honte de l'humanité aujourd'hui. On tue, on viole, on massacre.
Mais à l'époque, on enseignait Victor Hugo.
Donc je lis Victor Hugo, une traduction. Et cet homme-là, il m'a fasciné parce qu'il parle de liberté, d'égalité et de fraternité. Et je trouvais que c'était des valeurs universelles. Et j'ai beaucoup aimé la France à travers cet homme-là.
Vous dites, dans le fond, c'est plus qu'une doctrine, plus qu'une devise.
Je pensais que c'était vraiment ça qui faisait la grandeur de la France. Aujourd'hui, la France ne parle plus comme ça. La France ne parle pas d'égalité, ne parle pas de fraternité, ne parle pas de liberté. Dans les faits, on parle tous de ça. La Marseillaise résonne en ce moment beaucoup. Mais dans les faits, on est un peuple retourné, voilà, un petit peuple. Par le passé, tout passait par la France. Lorsque n'importe quelle autre nation mondiale voulait travailler ou dialoguer avec une autre, on passe par la France. Aujourd'hui, je ne vois pas qui pense à la France lorsque le Chinois veut transiger ou faire des accords avec les Brésiliens.
Alors, quand vous êtes arrivé en France, bon, vous ne parlez pas le français, et alors là, désillusion, parce que vous découvrez que vous n'êtes qu'un arabe pour les Français.
Mais d'ailleurs, plus qu'un arabe, c'est l'arabe de l'arabe, tout simplement, parce que j'étais le bédouin. Donc des conditions extrêmement pénibles.
Parce que c'était dans la foulée de la guerre d'Algérie, enfin voilà, il y avait...
Voilà, dans le sud de la France, vous avez des millions de pieds noirs. Moi, j'arrive à Montpellier et je me heurte à ça. Et on me prend pour un Algérien, malgré mes explications. On me dit Algérien égal Syrien, c'est la même chose.
Et là, vous avez détesté la France. Et puis, à un moment donné, vous avez dit, il faut que je change quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai compris. D'abord, je voulais rentrer chez moi. Le problème, c'est que chez moi, il n'y a plus. Ma mère était morte à 13-14 ans. Mon père ne voulait pas de moi. La grand-mère était morte. Donc, je n'ai plus d'attaque. Mon frère a été massacré par le père. Donc, voilà. Et à un certain moment, je dis, c'est un voyage à un seul sens. Donc, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, j'ai compris que si je voulais rester dans ce pays, il faut absolument que je change, et ce n'est pas la France qui va changer pour moi. C'est la raison pour laquelle. C'est comme ça que j'ai amorcé une ascension pour apprendre la langue, la culture, tout ce qu'on peut apprécier dans ce pays. Et je suis devenu aujourd'hui totalement français, un soldat de la République qui aime la France, qui travaille pour la France, qui a gagné, justement, vous l'avez dit, le titre mondial d'entrepreneur de l'année. La France n'a jamais gagné ce titre. Je suis très heureux et très fier de l'avoir apporté.
Alors, votre histoire, on pourrait presque dire aux États-Unis, c'est banal, parce qu'aux États-Unis, comme ouais. Ça, on peut réussir. Mais donc, vous voulez nous dire qu'en France, on peut réussir?
Vous savez, la France, on parle que de crise. Moi j'aimerais que nos politiques, que nous-mêmes, que vous et moi, tout le monde, arrête de parler de crise. Moi, je parlerai d'adaptation. Le monde a changé depuis pas mal d'années. Et la France reste bloquée sur des positions en parlant de crise. Pourquoi crise? La France produit plus de richesses que par le passé. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un déficit. Mais pourquoi on a un déficit? Mais parce que tout simplement, on dépense trop. Donc, il n'y a pas de crise en France. La crise, on se la fabrique. La crise, c'est justement parce que on n'a plus confiance en nous-mêmes. Lorsque Hugo parlait de liberté, égalité, etc., mais parce qu'il avait une confiance absolue en lui-même et en la nation française. Aujourd'hui, nos politiques, regardez n'importe lequel, vous les invitez régulièrement, ils vous parlent de crise, de récession, de beaucoup de choses qui sont négatives. Donc, vous avez un tableau noir qui est brossé tous les jours, toute l'année. Mais comment vous voulez gagner avec une incertitude quant à votre confiance? Moi, je le vois dans mon club de rugby.
Montpellier.
Lorsque les joueurs commencent à parler comme ça, je sais qu'ils vont perdre. Donc on leur dit, plus jamais ça. Vous allez gagner, ayez confiance en vous et vous allez gagner.
Alors, vous êtes Syrien d'origine. Il y a beaucoup de réfugiés syriens qui fuient leur pays. Est-ce qu'on ne les accueille pas bien? Est-ce qu'on ne se comporte pas bien avec eux?
La France, la Syrie n'ont pas d'histoire commune, contrairement à l'Afrique du Nord. La France a eu un protectorat, elle a exercé un mandat de protectorat de la Syrie entre 1900 et 1946. Mais la France n'a pas fait grand-chose, si vous voulez. C'était un promenade de santé, puis il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de fusion de sang, il n'y a rien, il n'y a pas eu de mort. Donc, on n'a pas d'histoire, vous comprenez. Les Syriens que vous recevez aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne peuvent plus rester chez eux. En Syrie, vous avez...
Ils ne veulent pas venir, en fait.
Ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir. Mais pourquoi ils sont là? Parce qu'ils sont éjectés, ils sont sur la route de l'exode. Et on a vu ces images dans l'histoire. C'est très, tout à fait honteux pour l'humanité. Donc les Syriens, tout ce qu'ils veulent, avoir la paix chez eux, que Daesh s'en aille, que Al-Nusra s'en aille, que Al-Qaïda s'en aille, que le régime Assad s'en aille, qu'on trouve un semblant de paix. Et croyez-moi, vous n'aurez plus aucun Syrien en Europe.
Merci Moed Altrad.
Merci à vous.
Il n'y a pas de crise en France, c'est ce que nous disait l'entrepreneur de l'année, Moed Altrad, avec Olivier Mazerolle. Entretien passionnant à retrouver sur rtl.fr.